Et tout de suite, Milad reçoit Anthony Larson, maître de conférence en civilisation des États-Unis d'Amérique à l'université Rennes 2, au sein du Master des Amériques, pour évoquer le début du procès de Donald Trump au tribunal criminel de Manhattan.
Bonjour Anthony Larson.
Bonjour.
Anthony Larson, vous êtes maître de conférence au sein de l'UFR Langue de l'université Rennes 2. Votre domaine de recherche est notamment centré sur la pensée française dans l'université américaine, la pensée de Gilles Deleuze et la mise en pratique d'une pensée deleuzienne dans la littérature et la culture américaine. Mais ce soir, on va parler d'un tout autre sujet, un sujet qui vous réjouit, puisque nous allons parler de l'ouverture du procès de Donald Trump, qui s'est ouvert donc le 15 avril dernier. Donald Trump s'est introduit dans le tribunal criminel de Manhattan à 9h30. Est-ce que pour vous c'était si évident que Donald Trump allait donc passer par ce procès, puisqu'il a tout fait pour éviter les procédures judiciaires, notamment avec cette immunité pénale qu'il a demandée et qu'il n'a pas eu finalement rejetée par une cour fédérale d'appel? Est-ce que pour vous, cette journée est malgré tout historique?
Oui.
Ou en tout cas, est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que ça pouvait arriver?
Alors, pour dire la vérité, j'essaie de penser à Donald Trump le moins que possible et que j'avais suivi les quatre procès, hein, parce qu'il y en a quatre, avec un peu de distance, parce qu'il y a beaucoup de Donald Trump fatigue aux États-Unis et que pour ma santé aussi, que je me suis dit qu'il ne faut pas que j'y pense trop, parce qu'ensuite, il y a beaucoup de problèmes de hypertension, des choses comme ça autour de Donald Trump. Mais historique, oui, bah, bien sûr, c'est historique. Hein. Donc, c'est la première fois qu'un ancien président passe devant un tribunal criminel aux États-Unis. Alors, oui, il y a tout un... C'est vrai, il y a des questions constitutionnelles derrière. Est-ce qu'un président peut être poursuivi? Parce que la question qu'il avait posée ou qui était sous-entendue dans ses appels et dans ses demandes d'annulation de procès ou de demande d'immunité, c'est que est-ce qu'un ancien président peut être poursuivi pour des faits ou des actions commises pendant sa présidence. Le procès, alors ce procès-ci est peut-être le plus... Alors, c'est le plus mineur des procès qui sont en cours, parce que en Floride il y a le cas donc de vol
à Rolago,
de
confidentiels,
oui, voilà, caché notamment dans les toilettes, hein, de sa résidence. Il y a aussi donc le problème des faux électeurs et de tentatives de influencer l'élection, notamment dans l'état de Géorgie. Et il y a aussi la question tout simplement de son immunité comme président, d'être poursuivi pour la procédure donc du 6 janvier 2020. Donc ce procès est comment lié à cette question de son ancienne liaison avec une ancienne actrice de pornographie. Quoique peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas ça. Oui,
exactement.
Je ne connais pas sa carrière, la trajectoire de sa carrière à elle, si elle est toujours actrice ou pas, mais qu'il y avait ce procès-là. Et donc, la question juridique qui est intéressante, finalement, c'est que l'argent qui était donné pour arrêter toute fuite autour de cette affaire a été, le transfert de l'argent avait lieu pendant la présidence de Donald Trump. Donc d'où la question.
Oui, sous le couvert de frais juridiques notamment.
Exactement,
c'est ça,
frais
le problème.
Juridiques falsifiés. C'est ça le procès. Est-ce que il est accusé d'avoir falsifié ses frais juridiques?
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un ancien associé comme Michael Cohen, lui, a été condamné à 3 ans de prison sur cette affaire pour les frais qui ont été donc donnés. Alors, c'est environ 130 000 dollars à Stormy Daniels. Donc là, on a les mêmes accusations, les mêmes biais d'accusation envers Donald Trump. Logiquement, il devrait être condamné aussi, comme Michael Cohen, il y a quelques années.
Logiquement, mais aussi dans le procès. Alors, on entre dans les détails du procès et dans une question assez... Le seul témoin qui peut lier Donald Trump à cet enchaînement d'argent et de transfert des fonds, c'est effectivement Michael Cohen, qui est aujourd'hui en prison. Donc, est-ce qu'on écoute le mot de quelqu'un qui est maintenant condamné pour un crime? Est-ce que Vous voyez, hein, la procédure ensuite, c'est est-ce que Michael Cohen, est-ce qu'on peut faire confiance à ce que dit Michael Cohen? Bon, ensuite, hein, c'est ça la question, c'est ça la question de défense de Donald Trump. Mais enfin, pour revenir à votre question, oui, c'est une semaine historique, hein, parce que véritablement, le système constitutionnel, le système de juridique des États-Unis fonctionne, et donc on a un ancien président qui est poursuivi pour des questions de questions criminelles finalement.
Et ça va déterminer la suite des procédures, puisque si Donald Trump est condamné pour cette affaire plus mineure, comme vous dites, par rapport à d'autres, par exemple ce coup d'État du 6 janvier 2020,
oui.
On peut imaginer que si la justice l'emporte face à Donald Trump, il y aura des suites, justement, par rapport à ces trois autres cas. À l'inverse, si c'est un échec, Donald Trump sera... En tout cas, sortira plus grandi de cette
oui,
affaire.
Peut-être, mais finalement, n'est-ce pas, on est dans une question de calendrier aussi, hein, donc
on est à
7 mois des élections, et donc s'il devient président, bah, finalement, la question de la poursuite de ces affaires par le département de justice sera décidée par Donald Trump lui-même, hein, donc c'est une question... entre votre question qui est une question théorique et la question réelle de ce qui se passe, bah, finalement il y a la réalité du calendrier qui se joue. Même si Donald Trump est on le trouve mince, je perds mes mots là, qu'il est guilty, n'est-ce pas, comme vous dites ça,
hein? Guillotiné,
non guilty.
Guilty,
donc il est coupable.
Ah oui, pardon,
s'il est coupable, il va faire appel. Et la procédure d'appel peut avoir lieu à deux instances, donc en première instance au niveau de la juridiction de New York, la ville, et ensuite au niveau de l'État. Donc finalement, il n'y aura pas en prison avant les élections.
Puis ce qui est intéressant, c'est que avant que Joe Biden devienne président, eh bien, là, ils vont en profiter notamment. Il aime bien les bloopers, Timothée. Avant que Joe Biden soit président, Donald Trump a quand même placé ses pions à la Cour suprême, notamment avec trois juges républicains en plus. Voilà, ça joue aussi dans la balance, puisque dans les plus hautes sphères de la justice, Donald Trump semble quand même protégé.
Protégé, oui ou non? Ah, bah, c'est une très bonne question. Alors, semble protégé, mais ensuite, la nomination des justices, oui, ces justices ont été nominées, ont été proposées par Donald Trump.
Dans les derniers mois, d'ailleurs. Hein,
dans les derniers jours, hein, d'ailleurs.
Ben, hein, oui.
Et ensuite, approuvées, votées par le Sénat. Ensuite, il y a toute une question, donc, du Chief Justice, de la Cour suprême, aussi pour préserver une certaine image de la Cour suprême devant le public aux États-Unis et d'essayer de ne pas donner cette impression d'être un outil politique. Donc il y avait des décisions qui vont plutôt dans un sens, disons, républicain, conservateur aux États-Unis, mais il y a aussi peut-être une tendance qui ira contre une demande assez farfelue à mes yeux là de demander d'immunité d'ancien président des États-Unis. Nous ne sommes pas dans nous sommes plus du tout des sujets de Sa Majesté du roi d'Angleterre aujourd'hui, hein, donc.
Après, c'est vrai qu'il est réputé avec les fameuses, comment dire, son émission de télé-réalité. Peut-être qu'il est encore dans cette optique-là. En tout cas, alors c'est dans le comment dire, la revue de presse du New York Times, on a David Leonhardt qui a dit que si Donald Trump devenait président, il serait un président tout à fait nouveau dans cette ère moderne, puisque il serait beaucoup plus sévère sur la législation par rapport à l'immigration, et notamment il ferait libérer les personnes qui sont aujourd'hui en prison pour ce coup d'État du 6 janvier.
Oui.
Donc s'il est président, évidemment, il va mettre des choses en place pour, comment dire, aller vers cette immunité, en quelque sorte.
Pour aller vers...
Balayer un peu toutes ces accusations, même si elles sont toujours effectives. Mais...
Oui, je pense qu'il y a une tentative d'aller dans ce sens-là. Évidemment, avec les pouvoirs donc de
régalien.
Oui, régalien, et de pardonner des gens jugés coupables ou qui sont encore en attente sur les procès, hein, sur le 6 janvier. Évidemment, il peut donner cette impression, être en dehors de la portée de la justice. C'est peut-être pas réellement le cas, mais il peut, pour rebondir dans le sens de votre question, oui, il peut donner presque la lecture de cette chose-là, hein, que ça serait presque tout sauf la chose même, hein, d'être à l'extérieur de la justice.
Et pour vous, quel impact va avoir justement ce procès sur l'électorat? On sait que parfois Donald Trump aime bien se placer en victime, notamment sur son réseau social Truth Social. Oui. Justement, c'est parfois un biais pour réattirer l'électorat républicain qui parfois doute un peu de Donald Trump, a pu douter en tout cas ces dernières années, même si les derniers mois ont montré clairement que Donald Trump a l'avantage face à Nikki Haley par exemple ou Ron DeSantis. Mmh. Est-ce que ce procès justement va jouer en faveur de Donald Trump pour les prochaines élections?
Alors, c'est toute la question, oui, parce que c'est vraiment sa façon d'être aussi, de se placer en victime, de jouer la victime. Alors, chaque fois qu'il y a des inculpations, est-ce que chaque fois qu'il y a une procédure où au moins des découvertes ou des investigations autour de lui, la première chose qu'il fait, bon, c'est un, nier les faits dans les médias et ensuite envoyer un email pour demander des fonds dans les minutes qui suivent. Donc, c'est une formidable machine à générer de l'argent pour lui et aussi pour se positionner. Alors, dans le public ensuite, est-ce que ça va changer les avis des Américains? Je pense qu'il y a une certaine saturation, mais franchement, hein, encore une fois, j'essaie de ne pas trop y penser parce que c'est très fatigant et franchement déprimant de penser à un retour de Donald Trump, mais que je pense que quand même dans les semaines à venir, on va avoir quand même un certain nombre d'histoires sur des liaisons, sur le nom de Stormy Daniels qui reviendra. Il y a aussi une ancienne
relation de
Playboy aussi qui est impliquée là-dedans.
Une relation qui a eu lieu un an plus tard après Stormy Daniels. Et qui avait lieu au moment où justement la compagne de Donald Trump était enceinte de leur troisième enfant.
Enfin, exactement.
Voilà. Mais oui. Extra-conjugal, donc.
Exactement. Et donc, est-ce que l'électorat un peu de droite religieuse aux États-Unis va en avoir un peu marre d'entendre de ces histoires? Est-ce que les Américains sont saturés de ces infos? Ça, je peux pas dire. Moi, je vois quand même une remontée. Vous avez l'air de vous tenir au courant aussi, mais une remontée de Joe Biden en ce moment dans les sondages.
Par rapport notamment l'avortement aux États-Unis, les Américains commencent aussi à être saturés par rapport aux prises de position de Donald Trump, notamment lui qui a essayé d'affirmer que c'était aux États de décider.
Et que c'est grâce à lui que ce pouvoir revient aux États.
Voilà.
Et qu'on a une entrée en vigueur d'une loi qui date de l'avant-guerre de sécession aux États-Unis dans l'État d'Arizona. Une loi qui était, alors pour mettre ça dans toutes les perspectives, donc évidemment c'était décidé dans le territoire d'Arizona avant même que Arizona devienne un État, et la personne qui a écrit les lois, c'était une personne, c'était un homme hein, qui était embauché pour écrire les lois de cet État, et donc voilà la démocratie, la décision remise entre les mains du peuple dans un État. Donc je pense que beaucoup de gens, bah, surtout dans l'État d'Arizona, sont assez choqués par cette décision et de ce retournement des événements. Donc la question d'avortement sera assez importante pour les élections, et ensuite
La question de l'aide à Israël finalement du côté de Biden, qui a tendance à jouer en sa défaveur. C'est un peu les deux boulets qui s'accrochent à Donald Trump, d'une part pour l'avortement, et le soutien à Israël inconditionnel de Joe Biden. Deux points là.
Oui, tout à fait. C'est cela, exactement.
Peut-être pour vous qui donc habitez en France, et comme vous dites, c'est assez douloureux d'évoquer le sujet de Donald Trump. C'est aussi assez inquiétant les annonces qui ont été faites par Donald Trump s'il était élu, notamment la question de l'aide à l'Ukraine, la sortie possible de l'OTAN, le fait d'autoriser la Russie de s'en prendre à des États qui n'aident pas à hauteur de 2,5%, qui n'aident pas l'OTAN financièrement à hauteur de 2,5%. C'est inquiétant pour vous ces élections à venir?
Énormément. Énormément. C'est pour ça que je ne veux pas trop y penser, mais c'est extrêmement inquiétant. Oui, exactement. Alors, le vote pour l'aide envers l'Ukraine aura lieu samedi, pareil, hein, dans la
Avec
Chambre
deux
de représentants.
Votes séparés, notamment. Hein, c'est la demande de Mike Johnson, le speaker.
Il y a quatre votes qui sont demandés. Hein, trois séparations de trois votes et plus une quatrième qui est sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour donner un petit peu de couverture aux républicains. Mais il risque sa position samedi. Alors, pour revenir à la question de l'Ukraine et l'Europe, c'est extrêmement inquiétant, hein, notamment pour la communauté américaine qui vit à l'étranger. Hein. Nous, on le voit, on le vit tout comme vous, hein, n'est-ce pas? L'Ukraine n'est pas loin. Hein. Les villes ukrainiennes ressemblent beaucoup. Hein, quand je me souviens du début de la guerre, je me souviens d'être ici, centre de Rennes, en pensant que dans cette ville, imaginez des bombes qui tombent tout d'un coup, c'est tout proche de nous.
Hein. Donc, oui, par exemple, Tcherniv, hein, qui a été victime d'un bombardement hier, c'est 300 000 habitants comme Rennes.
C'est exactement comme Rennes. Donc c'est extrêmement inquiétant pour les gens comme pour les expatriés. Hein. Pour moi, oui. Hein, pour répondre à votre question directement que vous m'avez posée, oui, c'est inquiétant pour moi. Exactement, oui.
Eh bien, écoutez, Anthony Larson, cet entretien s'achève ici. mais en tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages sur le procès de Donald Trump et puis sur cette future élection qui, bien sûr, est cruciale, hein, dans la suite de la diplomatie mondiale, on va dire, la diplomatie internationale.
Merci beaucoup.
Merci Anthony Larson.